Bonjour Christelle Robière.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une le premier tour de l'élection présidentielle, les bureaux de vote ouvriront dans une heure. Alors entre masques, gel et cartes d'électeur, eh bien on saura tout ce matin sur ce scrutin. Après les autres titres, Christelle.
Plus de 10 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. L'Europe se mobilise pour aider les réfugiés dans les pays limitrophes et aussi les millions de déplacés dans ce pays en guerre. Boris Johnson, lui, venu voir le président Zelensky à Kiev, a promis des armes. Dans ce journal aussi, quand les bateaux-mouches se mettent au vert. Ils vont passer à l'électrique d'ici aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et puis le double triplé du PSG, si vous savez compter, ça fait donc 6 buts. Voilà, que se sont partagés Mbappé et Neymar à Clermont-Ferrand, score final 6-1.
Et puis à partir de 8h20, deux invités pour parler de la Biennale internationale du design à Saint-Etienne. C'est jusqu'au 31 juillet. On va en parler avec deux invités, donc la designer Matali Crassé et Olivier Péricot, qui est le directeur du Pôle Recherche de la Cité du Design de Saint-Étienne.
France Inter. Ils sont 12 et ce soir, il ne restera que 2 finalistes. C'est le premier tour d'élection présidentielle, le rendez-vous électoral majeur de notre démocratie. 11e élection au suffrage universel de la 5e République. 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Dès 8h ce matin, élection mode d'emploi avec vous, Julie Drouin.
D'abord, pour savoir dans quel bureau de vote se rendre, l'adresse figure sur la carte électorale que vous êtes censé avoir reçue par courrier ces dernières semaines. Les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront leurs portes à 19h dans la plupart des communes de France, à 20h dans les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille ou encore à Nantes. Pour voter, il faut impérativement présenter une pièce d'identité, la carte nationale d'identité et le passeport fonctionnent, mais aussi le permis de conduire, la carte vitale ou encore le permis de chasse. Sachez aussi qu'il est possible de se rendre aux urnes si l'on est positif au Covid-19. Il est alors vivement recommandé de porter un masque, mais celui-ci n'est pas obligatoire dans les bureaux de vote. Des masques seront en tout cas mis à disposition des assesseurs et des électeurs et il pourra être demandé aux électeurs de les retirer brièvement afin de vérifier leurs identités. Les premières tendances seront communiquées à partir de 20h, mais les résultats sont susceptibles d'évoluer tout au long de la soirée au fur et à mesure du décompte des bulletins de vote sur l'ensemble du territoire.
Julie Drouin, d'ores et déjà tout est prêt pour vous accueillir, en particulier les assesseurs, ces rouages anonymes essentiels au bon déroulement du scrutin. Pierrette Fargeau, via Coulounier-Chamier, à côté de Périgueux en Dordogne, elle est assesseur pour la seconde fois. Anna Bonne-Mazou-Carrère, vous l'avez rencontrée.
Lunettes sur le nez, Pierrette pianote sur son smartphone. Elle vérifie l'horaire de rendez-vous au bureau de vote.
Je vais arriver à 8h15. Il y a une organisation à mettre en place qui fera quoi? Après, on a le petit café, c'est parfait. C'est avant tout un devoir. On me demande, je peux, je suis à la retraite, je fais.
Car une fois en poste devant l'isoloir, c'est tout un ballet auquel elle assiste et voir les autres hésiter devant les bulletins de vote, ça l'amuse beaucoup.
Ouais. Puis on entend évidemment des gens avec lesquels on peut deviner pour qui ils ont voté, mais faut pas approfondir, voilà. Ils sont pas trop nombreux, mais ça arrive, alors c'est amusant. Il y en a qui sont plus taciturnes et renfermés. Et puis surtout, on est tous là après au dépouillement, mais évidemment, c'est très sérieux, il y a contrôle, recontrôle. Nous, l'année dernière, les deux fois, impec, hein. Il n'y a pas eu de problème, non.
Malgré son rôle, Pierrette s'est assurée d'avoir un créneau pour pouvoir, elle aussi, aller voter. À 72 ans, elle n'en a pas raté un seul.
J'ai toujours voté, jamais manqué. Je ne me pose même pas la question. Il y a des gens qui sont morts pour ça, et surtout nous les femmes en plus. Je me dois d'aller voter. Donc il faut que je quitte mon poste, que je me fasse remplacer pour aller voter. Alors c'est vachement bien fait, hein. Ouh là là.
Seule inquiétude pour cette journée.
Mon stress, c'est surtout l'abstention. C'est vrai qu'il y avait quand même une absence de jeunes. J'avais remarqué l'année dernière, cette année je verrai.
Cette année, Pierrette est assesseur pour les deux tours de l'élection présidentielle.
Reportage France Bleu Périgord, et l'abstention est un enjeu clé et redouté. Le record avait été atteint le 21 avril 2002 avec 28,4%. En 2017, elle n'était que de 22%. Nous vous ferons vivre cette soirée évidemment sur France Inter dès 19h avec Claire Servajan et Jérôme Cadet, nos éditorialistes, nos reporters dans les QG de campagne. Estimation, décryptage, analyse des résultats avec en studio Stéphane Zumsteg du département opinion de l'Institut de sondage Ipsos et Céline Braconnier, directrice de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye.
L'actualité à l'étranger, c'est toujours l'Ukraine hein, qui se prépare à faire face à la grande offensive russe dans le Donbass à l'est du pays.
Elle se dit prête à livrer une grande bataille et réclame sans cesse des armes aux Occidentaux. Hier, le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui s'est rendu à Kiev pour rencontrer le président ukrainien, a promis des blindés et des missiles anti-navires. Il est venu prouver ce qu'il appelle son soutien indéfectible au peuple ukrainien. ukrainiens. Et puis, il y a l'aide aux réfugiés, aux personnes déplacées. Et en Pologne, la présidente de la Commission européenne a annoncé le résultat d'une immense levée de fonds menée avec le Canada et l'organisation Global Citizen. Ursula von der Leyen, très enthousiaste.
Ok, laissez-moi jeter un œil aux derniers chiffres. Nous avons finalement, le monde a finalement récolté 9,1 milliards d'euros avec cette conférence de donateurs. Et en plus, attendez, la Commission et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ajoutent 1 milliard. C'est fantastique. Cela fait 10,1 milliards d'euros. Et si vous le dites en dollars, ça fait encore plus.
Plus de 10 milliards d'euros, c'est donc une somme colossale. Comment va-t-elle être répartie, Jean-Jacques Herry?
La majeure partie de l'aide, 7,3 milliards d'euros sur les 10, s'est consacrée aux réfugiés déjà arrivés dans l'UE, soit 4 300 000 personnes pour répondre à leurs besoins immédiats, leur fournir à manger et un abri, garantir leur accès aux soins médicaux et aux écoles pour les enfants. Cela viendra soulager les pays en première ligne pour les accueillir. Ensuite, il y a le soutien aux déplacés toujours sur le territoire ukrainien. 1,8 milliard d'euros sont prévus pour aider 7 millions de personnes. Ce sera une aide humanitaire avec des dons financiers ou en nature, des médicaments, des tentes, des couvertures d'urgence par exemple, faits par des particuliers ou des entreprises et qui seront principalement acheminés par l'ONU. Quant aux contributions gouvernementales, leurs versements se feront directement aux autorités ukrainiennes qui les répartiront ensuite au niveau central ou local en fonction des besoins sur place. Enfin, la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, participe à la collecte avec un prêt supplémentaire d'un milliard d'euros. Bruxelles, Jean-Jacques Herry pour France Inter.
En France, trois hommes mis en examen à Perpignan après l'incendie qui avait coûté la vie à 8 personnes, dont un bébé et un enfant de 2 ans à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales. C'était en février dernier. Un incendie criminel. Un Algérien de 27 ans mis en examen pour destruction volontaire par incendie a été placé sous mandat de dépôt. 2 autres personnes, dont le propriétaire d'une épicerie au rez-de-chaussée de l'immeuble, sont poursuivies pour complicité. Après le passage de la tempête Diego, environ 6000 foyers sont toujours privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le retour à la normale est prévu dans la journée selon Enedis. Naviguer sans polluer Paris. Les bateaux de croisière sur la Seine, bateaux mouches et autres vedettes vont passer à l'électrique d'ici aux Jeux Olympiques de 2024. La compagnie des vedettes du Pont Neuf vient de présenter son premier bateau zéro carbone, Sandy Dauphin.
À gauche, le Louvre, un peu plus loin Notre-Dame. Les vedettes du Pont-Neuf font visiter Paris aux touristes depuis 1959. Delphine Berthoud, directrice générale.
Le bruit que nous entendons, c'est le bruit des moteurs que nous n'aurons plus sur le Roca 2, le bateau électrique.
Le Roca 2, le plus vieux bateau de la flotte, est le premier à troquer son moteur diesel pour des batteries.
On l'a choisi parce que c'était le plus petit, parce que c'est un bateau qui était vieux, donc on ne s'en servait plus. On a suffisamment de place sous le pont pour installer les batteries.
Il faudra environ 5 heures pour le recharger grâce à une borne installée à quai.
Peut-être qu'on pourra enchaîner 2 croisières, on va se rendre compte. Naviguer en hiver, naviguer en été, c'est pas la même chose au niveau du courant. Donc on consommera pas la même chose en hiver qu'en été.
Toutes compagnies confondues, une 15aine de bateaux sont en cours d'électrification. Les JO de Paris en 2024 sont un accélérateur, explique Dominique Ritz, directeur territorial des voies navigables de France.
Le monde entier va voir Paris, va voir la Seine. L'ambition, c'est d'avoir des bateaux les plus propres possibles, d'autant que la cérémonie des Jeux va se faire sur la Seine. L'ambition, c'est que cette flotte de transport des délégations, c'est que 40 bateaux fonctionnent à l'électrique. C'est un quart de la flotte.
À terme, le but est d'électrifier 100% des croisières sur la Seine d'ici 2030.
En football, 2 triplés en majesté au PSG, signés Neymar et Mbappé. Les Parisiens ont donné une leçon de foot au Clermontois, battu 6-1 dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Enfin du beau jeu, Mbappé s'en félicite.
On est content. On a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on en a donné aussi. C'est dommage que ça arrive que maintenant. Après, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait qu'on a été un peu retardé. Mais voilà, c'est 3 jours de qualité et je pense que on essaie d'aider l'équipe un maximum. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On continue notre route vers ce 10e titre. Voilà, je pense qu'il est plus très loin et on est très satisfait.
Mbappé, par ailleurs, en tête des buteurs. 20 buts marqués depuis le début de la saison.
Il est content. Mbappé. C'était le journal de Christelle Robière. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
La météo est en train de se mettre au beau fixe, Jean-Michel Golinski.
Ah, exactement, et c'est un temps sec et ensoleillé qui va rapidement se mettre en place. En journée, de très fins nuages de haute altitude vont survoler le nord de la Loire ainsi que la Nouvelle-Aquitaine. Alors ce soir, le vent d'autant va commencer à se faire sentir et toute la journée, les rafales de sud seront marquées sur l'ouest des Pyrénées, donnant cet après-midi 24 degrés par effet de fun sur le Pays Basque. Il est prévu 18 à 20 du Limousin au sud-ouest, 17 de Nice à Montpellier, à Grenoble et à Clermont-Ferrand, 16 à Rennes et La Rochelle, 14 à Brest et Paris et 12 degrés à Lille et à Strasbourg.
Jean-Michel Golinski, Météo France.